et de comprendre comment c'est l'homme tout entier qui doit aimer Dieu. Alors saint Thomas le fait en analysant, vous voyez, selon les diverses capacités, mais c'est ça qui nous est montré. De tout ton cœur, évidemment, c'est l'acte même. De tout ton esprit, l'intelligence. De toute ta force, le point de vue de l'exécution. Et de ton âme, le point de vue de la pitié. Chrysostome, pourtant, dans son commentaire sur saint Matthieu, entend le cœur et l'âme à l'inverse de ce qui vient d'être dit. Saint Augustin, lui, met le cœur en relation avec les pensées, l'âme avec la vie, l'esprit avec l'intelligence. Il en est d'autres qui, par cœur, entendent l'intelligence, par âme, la volonté, par esprit, la mémoire. Ou encore, selon saint Grégoire de Nice, le cœur désigne l'âme, l'âme végétative. L'âme, l'âme sensitive, l'esprit, l'âme intellectuelle, car nous devons rapporter à Dieu nutrition, sensation et intelligence. Saint Thomas relativise, vous voyez, en faisant ça, en montrant que comme il s'agit d'un langage symbolique, on ne peut pas réduire systématiquement ce langage symbolique à une analyse philosophique. Et c'est ça qui est exprimé.
Dans le fondement de toute la théologie selon du cœur.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Dans le fondement scientifique de toute la théologie du cœur.
Là, oui, tout à fait. C'est le fondement scientifique, tout à fait. Entièrement. Et c'est bien l'amour, on est, c'est sûr. On ne peut pas être autrement. Et je crois que le thème de l'âme du cœur est le thème le plus fréquent de toute l'écriture, employé plus de 1000 fois à travers toute l'écriture. Les exégètes ont compté, donc, plus de 1000 fois. Je crois qu'il n'y a pas d'autre expression qui est employée aussi fort. Donc c'est l'expression qui prend toute l'écriture en prenant l'homme dans la vision de Dieu ou Dieu dans la vision de l'homme. Voyez. Et alors on comprend à ce point de vue-là, que c'est vraiment le point de vue de l'amour. Toute l'écriture nous révèle l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'homme, et l'amour de l'homme pour l'homme, l'amour de l'homme pour Dieu. Mais c'est évident que c'est bien là où on trouve le passage du terme symbolique à la réalité, dans ce cas-là, de plus théologique, scientifique. Le précepte de l'amour de Dieu peut-il être accompli sur la terre? Saint Jérôme a dit: malheur à celui qui affirme que Dieu a commandé quelque chose d'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Or, Dieu a donné ce précepte, comme on le voit dans le Deutéronome. Ce précepte peut donc être accompli sur cette terre. Alors, réponse. Saint Augustin dit que c'est dans la plénitude de la charité de la patrie que s'accomplira ce précepte. Oui, il est en opposition Saint Jérôme et Saint Augustin, c'est très bien. C'est dans la plénitude de la charité de la patrie que s'accomplira le précepte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Car tant qu'il y a encore quelques concupiscences charnelles à réfréner, on n'aime pas tout à fait Dieu avec toute son âme. Un précepte peut être accompli de deux façons, parfaitement ou imparfaitement. Il est accompli parfaitement quand l'on parvient à la fin que se propose l'auteur du précepte. Il est accompli aussi, mais imparfaitement, lorsque sans atteindre la fin proposée, on ne s'écarte point cependant de l'ordre qui mène à cette fin. De même, quand le chef de l'armée commande aux soldats de combattre, celui-là accomplit parfaitement le précepte qui, en combattant, triomphe de l'ennemi, ce qui est l'intention du chef. et celui-là l'accomplit aussi, mais imparfaitement, qui, sans obtenir la victoire par le combat, ne fait rien toutefois de contraire à la discipline militaire. Or Dieu veut, par ce précepte, que l'homme lui soit totalement uni, ce qui se fera dans la patrie, lorsque Dieu sera tout en tous, comme il est dit dans la première épître aux Corinthiens. Ce précepte se trouvera donc pleinement et parfaitement accompli dans la patrie. Il s'accomplit aussi sur cette terre, mais imparfaitement. Et cependant, sur cette terre, l'un accomplit ce précepte plus parfaitement qu'un autre, dans la mesure où il approche davantage, par quelques ressemblances, de la perfection du ciel. C'est les saints qui sont sur la terre. Alors ceux-là, ils sont tout proches du ciel, et ils accomplissent le plus parfaitement possible ce précepte, en l'actuant le plus possible. Alors, cette raison de saint Jérôme prouve que le précepte peut être d'une certaine façon accompli dans la voie, bien que non parfaitement. Alors, seconde objection, quiconque n'accomplit pas le précepte commet un péché mortel, car, selon saint Ambroise, le péché n'est rien d'autre que la transgression de la loi divine et la désobéissance au commandement du ciel. Si donc ce précepte ne peut pas être accompli sur cette terre, il faut en conclure que nul ne peut, en celle-ci, être sans péché mortel. Ce qui va contre l'affirmation de l'apôtre qui écrit dans la première épître aux Corinthiens, il vous gardera ferme jusqu'au bout, pour que vous soyez irréprochables. Et dans la première épître à Timothée, qu'on n'en fasse des ministres que s'ils sont irréprochables. Réponse. De même que le soldat qui combat sous les règles, bien qu'il n'obtienne pas la victoire, n'est pas inculpé et ne mérite pas de châtiment, de même aussi celui qui, dans la voie, accomplit ce précepte, ne faisant rien contre l'amour de Dieu, ne commet pas de péché mortel. Mais ça revient à regarder, Dieu sonde les reins et les cœurs, et ce que le prophète Samuel dit, Dieu regarde les intentions plus que l'accomplissement. C'est au fond ça. Il n'y a que dans le ciel où, en quelque sorte, on touche la fin du précepte et où, dans tous nos efforts, fleuriront. Sur la terre, nos efforts ne fleurissent pas toujours. C'est imparfait, mais il y a l'intention. Et c'est ça qui est montré, il y a l'intention de bien faire. Tous les matins, on se réveille avec l'intention de faire mieux que la veille. Alors, on ne sait pas si au fond on fait mieux que le soir, vous êtes obligé de constater, hein, pas mieux qu'hier. Et cependant, tous les jours, vous reprenez avec le désir de faire mieux que la veille. Il faut bien, ça c'est l'intention. Et Dieu regarde cela. Et Dieu fait comme si vous l'aviez accompli mieux, même si à vos propres yeux, vous l'avez accompli à peu près de la même façon. Parce que Dieu regarde en premier lieu les intentions. C'est pour ça que tous les jours, il faut avoir cette intention de faire mieux que la veille. Alors ça maintient, vous voyez, l'ardeur toujours d'aller plus loin. Troisième objection. Les préceptes sont donnés en vue de diriger les hommes dans la voie du salut, selon la parole du psaume. Le commandement du Seigneur est une lumière qui éclaire les yeux. Or, c'est en vain qu'on dirige quelqu'un vers l'impossible. Il n'est donc pas impossible d'accomplir ce commandement en cette vie. Réponse. Comme le dit saint Augustin, pourquoi cette perfection ne serait-elle pas commandée à l'homme, bien que personne ne l'obtienne sur cette terre? Comment marcher dans la bonne direction, en effet, si on ne sait où il faut aller Et comment le saurait-on s'il n'y avait pas de précepte pour le montrer? Vous voyez bien, hein, là, on aperçoit bien la raison du précepte. C'est parce qu'on est dans la foi. Autrement, on verrait. C'est ça qu'il n'y a pas de précepte d'amour au niveau humain, il y a un précepte d'amour au niveau divin, à cause de la foi et de l'espérance. Parce qu'on est dans l'obscurité. Le précepte de l'amour du prochain est-il donné d'une façon satisfaisante? Le précepte de l'amour du prochain est donné, semble-t-il, d'une façon qui n'est pas satisfaisante. En effet, l'amour de charité s'étend à tous les hommes, même aux ennemis, comme on le voit en Saint Matthieu. Or, le nom même de prochain indique une proximité qui ne semble pas exister à l'égard de tous les hommes. Par conséquent, il semble que ce précepte ne soit pas donné d'une manière satisfaisante. Réponse. En Saint Matthieu, il est dit, le second précepte est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce précepte est donné comme il fallait, car on y voit indiquer à la fois la raison que nous avons d'aimer et le mode de l'amour. La raison d'aimer est touchée dans le nom même de prochain. Ce pourquoi, en effet, nous devons aimer les autres de charité, c'est qu'ils nous sont proches en raison de l'image naturelle de Dieu et aussi de la capacité qu'ils ont d'entrer un jour dans la gloire. Il n'importe en rien, d'ailleurs, qu'on l'appelle le prochain ou le frère, comme dans la première épître de Saint Jean, ou l'ami, comme dans le Lévitique, car tous ces mots signalent une même affinité. Quant au mode de l'amour, il est signalé lorsqu'on dit « comme toi-même », ce qui ne veut pas dire qu'il faut aimer le prochain autant que soi-même, mais de la même manière. Et cela se réalise de trois façons. À considérer la fin, on aime le prochain pour Dieu, comme aussi on doit s'aimer soi-même pour Dieu. Ainsi l'amour du prochain est saint. À considérer la règle de l'amour, on ne s'accorde pas avec le prochain dans le mal, mais seulement dans le bien. Comme aussi, on ne doit satisfaire sa propre volonté que dans le bien. Ainsi, l'amour du prochain est juste. À considérer la raison de l'amour, on n'aime pas le prochain pour sa propre utilité ou pour son propre plaisir, mais pour cette raison que l'on veut au prochain du bien, de même que l'on se veut à soi-même du bien. Et ainsi, l'amour du prochain est vrai, car lorsqu'on aime le prochain pour son utilité ou son bon plaisir, ce n'est pas le prochain que l'on aime vraiment, mais soi-même. Alors, il nous reste le dernier article. Et c'est relativement facile, mais c'est beau, parce que ça nous fait comprendre comment Dieu, par ce précepte, veut ordonner en nous toutes nos forces. C'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est ce précepte d'amour est capable d'assumer toutes nos forces. D'assumer toutes nos forces vers Dieu et que aimer le prochain ne nous disperse pas de l'amour de Dieu. Est-ce que l'ordre à mettre dans la charité tombe sous le précepte? Quiconque transgresse un précepte commet une injustice. Or, si l'on aime quelqu'un autant qu'il le faut, et que cependant, l'on aime quelque autre davantage, on ne commet d'injustice à l'égard de personne. On ne transgresse donc pas le précepte. Par conséquent, l'ordre à mettre dans la charité ne tombe pas sous le précepte. à leur réponse. Ce que Dieu fait en nous par sa grâce, il nous l'enseigne par les préceptes de la loi, selon cette parole de Jérémie. Je mettrai ma loi dans vos cœurs. Or Dieu cause en nous l'ordre qu'il faut mettre dans la charité. Selon cette parole du cantique, il a ordonné en moi la charité. Et par conséquent, l'ordre de la charité tombe sous le précepte de la loi. Ainsi qu'on l'a dit, le mode qui fait essentiellement partie de l'acte vertueux tombe sous le précepte qui nous commande la vertu. Or, l'ordre à mettre dans la charité fait essentiellement partie de la vertu, puisqu'il se prend de la proportion qui doit exister entre l'amour et la chose aimée. Il est donc manifeste que l'ordre de la charité doit tomber sous le précepte. Parce qu'il est inclus dans l'acte d'amour, d'amour divin. Alors voyons vite les réponses aux objections. Puis je demanderai si vous avez des questions. On accorde davantage à celui qu'on aime davantage. C'est pourquoi si l'on aime moins celui que l'on doit aimer davantage, on accorde davantage à celui à qui il faudrait donner moins. On fait alors injure à celui que l'on doit aimer davantage. Oui. Alors, seconde réponse, seconde objection. Ce qui fait partie du précepte nous est suffisamment indiqué dans la Sainte Écriture. Or, l'ordre à mettre dans la charité, dont il a été question plus haut, ne nous est indiqué nulle part dans la Sainte Écriture. Il me tombe bas sur le précepte. L'ordre à mettre entre les quatre choses qu'il faut aimer de charité est indiqué dans la Sainte Écriture. Quand on nous commande en effet d'aimer Dieu de tout notre cœur, on nous laisse entendre que nous devons aimer Dieu par-dessus toute chose. Quand on nous commande d'aimer le prochain comme nous-mêmes, on fait prévaloir l'amour de soi-même sur l'amour du prochain. De même encore, quand on nous commande, voyez la première épître de Saint Jean, de donner notre vie pour nos frères, c'est-à-dire la vie de notre corps, on nous laisse entendre que nous devons aimer le prochain davantage que notre propre corps. Enfin, quand on nous commande à la fin de l'épître aux Galates de faire plus de bien aux fidèles de la foi, et quand on blâme, dans la première épître à Timothée, celui qui ne prend pas soin des siens, surtout de ses familiers, on nous laisse à entendre que nous devons aimer davantage ceux qui sont meilleurs et ceux qui nous sont plus proches. Donc pour saint Thomas, l'ordo caritatis qui est exprimé dans son traité sur la charité, vous voyez, est directement révélé. Directement ou au moins implicitement, c'est appliqué dedans. Mais c'est révélé. Alors, dernière objection, l'ordre implique toujours quelques distinctions. Or, c'est sans distinction que l'amour du prochain nous est commandé lorsqu'il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Par conséquent, l'ordre à mettre dans la charité ne fait pas partie du précepte. L'expression « tu aimeras ton prochain » laisse entendre, par voie de conséquence, que ceux qui sont plus proches doivent être aimés davantage. Ça, c'est implicite. Dit gere proximum tuum, datur consequenter intelligi, quod illi qui sunt magis proximi, sunt magi diligenti. Donc voilà la question du précepte. Oui, on a été vite pour le terminer. Finalité du cours. Alors, il y a des questions à poser maintenant. On a tout le temps maintenant. la terminer. Vous pouvez les poser. Merci.
Très bien.
Ah, très bien, on retourne sur les CD, ça ne m'étonne pas. Le précepte n'offre aucune difficulté, nous pratiquons la CD, nous sommes dedans, c'est plus difficile d'en sortir. La CD est-elle péché capital? Or, il semble qu'il n'y en ait que 7. Merci beaucoup. Vous voyez, là, là c'est évident que... Les 7 péchés capitaux, c'est évident. La CD d'un péché capital dans le sens, vous voyez, saint Thomas montre l'opposition par rapport à l'amour. Alors on pourrait dire que c'est comme un péché qui est fondement de tous les péchés capitaux. Ou, comme on dirait en allemand, ça c'est quelque chose qui est fondamental. C'est pas un péché capital qui s'ajoute aux autres, mais c'est un péché capital parce que c'est un péché qui va contre l'amour. Contre la joie de l'amour. Alors c'est en ce sens-là, vous voyez. Donc ça n'a pas tout à fait le même sens que péché capital au niveau moral. On est au-dessus de la morale. On est au niveau de la charité. Alors comme on dit, vous voyez, que la charité est forme de toutes les vertus, on dit que la CEDI, je ne dis pas est forme de tous les péchés capitaux, mais elle est ce qui va permettre en nous une désagrégation. Et ça, je crois. C'est bien dans ce sens-là, dit saint Thomas. Elle désagrège. La CEDI désagrège. Est-ce que notre vie de charité ne doit pas toujours un peu osciller entre l'adoration fondement et la contemplation sommet? Oui, ça, tout à fait d'accord. Tout à fait, les deux aspects extrêmes. La charité informe la vertu de religion. Et la vertu de religion, vous le savez bien, implique l'adoration. Selon saint Thomas, la vertu de religion implique la dévotion, l'adoration et le sacrifice. Et alors, au fond, on peut dire que la charité informe la vertu de religion. C'est la première chose que la charité informe, c'est la vertu de religion. C'est pour ça qu'il faut des adorateurs en esprit, en vérité. C'est quand même très net, hein. C'est ce que Jésus dit tout de suite à la Samaritaine. Il faut des adorateurs en esprit, en vérité. Et alors, ça informe la vertu de religion, et la charité en elle-même implique la contemplation. Donc, on pourrait dire fondement de la charité, dans le sens où la charité informe, et le sommet de la charité. Comment les dons du Saint-Esprit viennent-ils à notre secours pour nous faire comprendre cela? Le don de crainte, l'adoration. Oui, le don de crainte et le don de piété. C'est sûr, donc crainte liée à la promesse de l'espérance, c'est sûr. Don d'intelligence et surtout don de sagesse. La béatitude. Le don d'intelligence vient la béatitude des cœurs purs. Et de faire dépasser le scandale de l'intelligence devant le silence de Dieu, oui. Sûrement que le don d'intelligence permet cela. Les cœurs purs, ce sont ceux qui, justement, sont dans cette attitude de réceptivité à l'égard de la parole de Dieu comme ce qui vient nous éclairer, le don de sagesse, contemplation. Pourriez-vous développer comment tout s'enracine dans le fondement de l'adoration? Le fondement naturel, hein, vous voyez, l'amour et la vertu de religion. Alors, c'est parce que, justement, la grâce présuppose la nature. Si vous prenez ça, la grâce présuppose la nature, vous comprenez que le fondement, c'est justement ce moment de la grâce qui présuppose la nature. La nature humaine, c'est une nature religieuse qui est faite pour adorer. Et la première chose que la grâce s'empare, c'est justement notre capacité d'adorer. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que vraiment, ce soit le fondement radical à Alors, donc crainte, donc piété. Donc crainte avant tout, radicalement, nous montrer notre incapacité, notre dépendance, notre pauvreté. Et alors, la charité en elle-même implique la contemplation. Oui, c'est la charité qui s'empare de notre état de créature et la charité qui s'exerce pour elle-même. La charité qui s'empare de notre état de créature vient informer l'exercice de la vertu de religion. Et la charité pour elle-même nous apprend à vivre en enfant de Dieu, hors Dieu et contemplatif. Donc il faut contempler, comme lui-même contemple. Alors, il semble que la définition du prochain que donne Jésus n'est pas rigoureusement la même que celle de Satan. Tout à fait d'accord. C'est très différent. Parabole du bon samaritain. D'un côté, celui qui est le plus dans le besoin, et de l'autre, celui qui est le plus proche ou le plus saint. Ce qui est assez différent. Il n'y a pas d'opposition. Je crois qu'il faut regarder tout de suite la différence entre le texte de la parabole du bon samaritain. Pose la question qui est le prochain. Et Jésus fait comprendre que le prochain, c'est nous qui le faisons. Or, Jésus prend exprès la situation ultime où nous avons envie de ne pas le faire. Puisque le Lévi et les autres ne le font pas. Saint Thomas, en théologie scientifique, prend l'inverse. Il prend le prochain, celui qui, au point de vue de la charité, est le plus proche. Vous voyez ? Alors, je crois que c'est toute la différence de la pédagogie du Christ, qui est une pédagogie, et Saint Thomas, qui n'est pas une pédagogie, qui donne la raison. C'est toujours ce qui semble. Quand on oppose Saint Thomas et l'Écriture, c'est parce qu'on ne comprend pas l'intention de Saint Thomas. Saint Thomas est un saint dont il a vécu l'Évangile, plus que nous, et connaît mieux l'Évangile que nous. Ça, j'en suis sûr. Il connaît mieux Jésus, il connaît mieux le cœur de Jésus que nous. Et pourtant, il fait une théologie scientifique. Alors, cette théologie scientifique, qu'est-ce que ça veut dire ? Et l'Église, de fait, le reconnaît. L'Église aurait pu dire, non, c'est trop dangereux, il vaut mieux pas le faire. L'Église reconnaît qu'il est théologien angélique et que c'est plus sûr de suivre saint Thomas. Donc, on voit que l'Église reconnaît qu'il y a cette pénétration de la théologie scientifique qui veut regarder les choses dans leur objectivité la plus grande. Tandis que dans une pédagogie, on regarde des cas extrêmes, oui, pour mieux mettre en relief. Vous mettez beaucoup mieux en relief ce qu'est le prochain quand vous voyez justement le samaritain. Qui a fait que l'autre est devenu son prochain. Alors, dans la voie unitive, n'y a-t-il pas une constance, une possibilité d'aimer Dieu en permanence? Oui, c'est ce que saint Thomas dit. Mais alors, toujours, voyez, quand vous dormez, mon cœur veille. Même dans la voie unitive, quand Dieu nous oblige de dormir. On ne peut pas dire que nécessairement la charité sera en acte tout le temps. On acceptera cette condition. Même dans la voie unitive, on accepte la condition humaine, la terre. Donc on ne voudra pas dire « je vais supprimer le sommeil pour rester toujours en acte d'aimer ». Je crois que ça risquerait d'être un manque de pauvreté et d'humilité, un manque de réalisme. Et ça tomberait un peu dans la présomption. Je veux vivre absolument cela. Et Dieu demande que nous acceptions une situation de fragilité. Alors on peut dire que pendant ce temps-là, la Vierge Marie prie pour nous et oui, c'est très, très juste. Elle est là, Mais notre cœur veille, c'est Marie qui veille sur notre cœur, c'est Marie qui permet cela. Mais nous, nous faisons cet acte d'humilité. Et nous reconnaissons cela, alors qu'on voudrait rester toujours en acte d'aimer.